Chapitre 7. Chaque prince qui meurt. À ceux qui ne l'avaient pas vu durant les dernières semaines, combien Monseigneur de Valois apparaissait changé. D'abord, on avait l'habitude qu'il fût toujours coiffé, soit d'une grande couronne scintillante de pierreries les jours d'apparat, soit d'un chaperon de velours brodé dont l'immense crête dentelée lui retombait sur l'épaule, ou encore d'un de ses bonnets à cercle d'or qu'il portait en appartement. Pour la première fois, il se montrait en cheveux. Des cheveux blonds mélangés de blanc auxquels l'âge avait donné une couleur délavée, dont la maladie avait défrisé les rouleaux et qui pendaient sans vie le long des joues et sur les coussins. L'amaigrissement chez cet homme, naguère gras et sanguin, était impressionnant, mais moins toutefois que l'immobilité contractée d'une moitié du visage, que la bouche un peu tordue dont un serviteur essuyait régulièrement la salive, moins impressionnant que la fixité éteinte du regard. Les draps brochés d'or, les courtines bleues semées de fleurs de lys qui, drapées comme un dais, surmontaient le chevet, ne faisaient qu'accuser la déchéance physique du moribond. Et lui-même, avant de recevoir tout ce monde qui se pressait dans sa chambre, avait demandé un miroir, et il avait un moment étudié ce visage qui impressionnait si fort, 2 mois plus tôt, les peuples et les rois. Que lui importait à présent le prestige, la puissance? Où étaient donc les ambitions qu'il avait si longtemps poursuivies? Que signifiait cette satisfaction si vivace naguère de marcher toujours le front levé entre des fronts baissés, depuis que sous ce front s'était produit ce grand éclatement, ce grand basculement de tout? Et cette main, sur laquelle serviteurs, écuyers et vassaux se jetaient pour en baiser le dos et la paume, qu'était donc cette main morte le long de lui-même? Et l'autre main, qu'il commandait encore, dont il se servirait tout à l'heure une dernière fois pour signer le testament qu'il allait dicter, si une main gauche voulait bien se prêter à tracer les signes de l'écriture, cette main lui appartenait-elle davantage que le cachet gravé dont il scellait ses ordres et qu'on ferait glisser de son doigt après qu'il serait mort? Rien lui avait-il jamais appartenu? La jambe droite, totalement inerte, semblait lui avoir été déjà reprise. Dans sa poitrine, par moments, se produisait comme un vide de gouffre. L'homme est une unité pensante qui agit sur les autres hommes et transforme le monde. Et puis, soudain, l'unité se désagrège, se délie, et qu'est-ce alors que le monde et que sont les autres? L'important en cette heure pour Monseigneur de Valois, ce n'étaient plus les titres, les possessions, les couronnes, les royaumes, les décisions du pouvoir, la primauté de sa personne parmi les vivants. Les emblèmes de son lignage, les acquisitions de sa fortune, même les descendants de son sang qu'il voyait autour de lui assemblés, tout cela pour lui avait perdu valeur essentielle. L'important, c'était l'air de septembre, les feuillages encore verts avec déjà quelques roussissures et qu'il apercevait par les fenêtres ouvertes, mais l'air surtout, l'air qu'il aspirait avec difficulté et qui allait s'engloutir dans cet abîme qu'il portait au fond de la poitrine. Tant qu'il sentirait l'air pénétrer dans sa gorge, le monde continuerait d'exister avec lui en son centre, mais un centre fragile, pareil à la fin de la flamme d'un cierge. Ensuite, tout cesserait d'être, ou plutôt, tout continuerait, mais dans l'ombre totale et l'effrayant silence, comme une cathédrale existe quand le dernier cierge s'y est éteint. Valois se rappelait les grands trépas de sa famille. Il réentendait les paroles de son frère Philippe le Bel. « Regardez ce que vaut le monde, voici le roi de France !» Il se souvenait des mots de son neveu Philippe le Long. « Voyez votre souverain seigneur, il n'est nul d'entre vous, le plus pauvre fut-il, avec qui je ne voudrais échanger mon sort. » Il avait entendu ces phrases-là sans les comprendre. Voilà donc ce qu'avaient éprouvé les princes, ses parents, au moment de passer dans la tombe. Il n'existait pas d'autre mot pour le dire, et ceux qui avaient encore du temps à vivre étaient impuissants à le saisir. Chaque homme qui meurt est le plus pauvre homme de l'univers. Et quand tout serait éteint, dissous, délié, quand la cathédrale se serait emplie d'ombre, qu'allait-il découvrir, ce très pauvre homme, de l'autre côté? Trouverait-il ce que lui avaient appris les enseignements de la religion? Mais qu'étaient-ils ces enseignements, sinon d'immenses, d'angoissantes incertitudes? Serait-il traduit devant un tribunal? Quel était le visage du juge? Et tous les gestes de la vie, en quelle balance serait-il pesé? Quelle peine peut être infligée à ce qui n'est plus? Le châtiment? Quel châtiment? Le châtiment consistait peut-être à conserver la conscience claire au moment de franchir le mur d'ombre. Enguerrand de Marigny avait eu lui aussi, Charles de Valois ne pouvait se distraire d'y penser, la conscience claire, la conscience encore plus claire d'un homme en pleine santé, en pleine force, arraché à la vie non point par la rupture de quelques rouages secrets de l'être, mais par le vouloir d'autrui. Non pas la dernière lueur du cierge, mais toutes les flammes soufflées d'un coup. Les maréchaux, les dignitaires, les grands officiers qui avaient accompagné Marigny jusqu'au gibet, les mêmes ou leurs successeurs dans les mêmes charges étaient là, en ce moment, autour de lui, emplissant toute la chambre, débordant dans la pièce voisine au-delà de la porte, et avec les mêmes regards d'hommes conduisant un des leurs à la dernière pulsation de son cœur, étranger à la fin qu'il guette, et tout entier dans un avenir dont le condamné est éliminé. Ah! Comme on donnerait toutes les couronnes de Byzance, tous les trônes d'Allemagne, tous les sceptres et tout l'or des rançons pour un regard, un seul, où l'on ne se sente pas éliminé. Du chagrin, de la compassion, du regret, de l'effroi et les émotions du souvenir. On rencontrait tout cela dans le cercle d'yeux de toutes couleurs qui entourait un lit de prince mourant. Mais chacun de ces ressentiments n'était qu'une preuve de l'élimination. Valois observait son fils aîné, Philippe, ce gaillard à grand nez, debout auprès de lui sous le dais, et qui serait, qui allait être demain ou un jour tout proche, ou dans une minute peut-être, le seul, le vrai comte de Valois, le Valois vivant. Il était triste comme il convenait de l'être, le grand Philippe, et pressait la main de sa femme, Jeanne de Bourgogne, la boiteuse. Mais soucieux aussi de son attitude à cause de cet avenir devant lui, il semblait dire aux assistants « Voyez, c'est mon père qui meurt !» Dans ses yeux-là aussi, Valois était déjà effacé. Et les autres fils? Charles d'Alençon, qui, lui, évitait de croiser le regard du moribond, se détournant lentement lorsqu'il le rencontrait, et le petit Louis, qui avait peur, qui paraissait malade de peur parce que c'était la première agonie à laquelle il assistait. Et les filles? Plusieurs d'entre elles étaient présentes. La comtesse de Hainaut, qui faisait un signe de temps à autre au serviteur chargé d'essuyer la bouche, et sa cadette, la comtesse de Blois, et plus loin, la comtesse de Beaumont, auprès de son géant époux, Robert d'Artois, tous deux faisant groupe avec la reine Isabelle d'Angleterre et le petit duc d'Aquitaine, ce garçonnet à longs cils, sage comme on l'est à l'église, et qui ne garderait de son grand-oncle Charles que ce seul souvenir. Il semblait à Valois que l'on complotait de ce côté-là. On y préparait un avenir également dont il était éliminé. S'il inclinait la tête vers l'autre bord du lit, il rencontrait, droite, compétente mais déjà veuve, Mahaut de Châtillon-Saint-Paul, sa troisième épouse. Gaucher de Châtillon, le vieux connétable avec sa tête de tortue et ses 77 ans, était en train de remporter encore une victoire. Il regardait un homme plus jeune de 20 ans s'en aller avant lui. Étienne de Mornay et Jean de Cherchemont, tous deux anciens chanceliers de Charles de Valois avant d'être devenus tour à tour chanceliers de France, Mille de Noyers, légiste et maître de la Chambre des Comptes, Robert Bertrand, le chevalier Auvers-Lyon, nouveau maréchal, le frère Thomas de Bourges, confesseur, Jean de Torpeau, physicien, étaient tous là pour l'aider, chacun au titre de sa fonction. Mais qui donc aide un homme à mourir? Hugues de Bouville essuyait une larme. Sur quoi pleurait-il, le gros Bouville, sinon sur sa jeunesse enfuie, sa vieillesse prochaine et sa propre vie écoulée? Certes, un prince qui meurt est plus pauvre homme que le plus pauvre serf de son royaume, car le pauvre serf n'a pas à mourir en public, Sa femme et ses enfants peuvent le leurrer sur l'imminence de son départ. On ne l'entoure pas d'un apparat qui lui signifie sa disparition. On n'exige pas de lui qu'il dresse in extremis constat de sa propre fin. Or, c'était bien cela qu'il réclamait, tous ces hauts personnages assemblés. Un testament, qu'est-ce d'autre que l'aveu qu'on fait soi-même de son décès? Une pièce destinée à l'avenir des autres. Son notaire particulier attendait, l'encrier fixé au bord de la planche à écrire, le vélin et la plume prêts. Allons, il fallait commencer, ou plutôt achever. Le plus pénible n'était pas tant l'effort d'esprit que l'effort de renoncement. Un testament, cela débutait comme une prière.
« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »
Charles de Valois avait parlé, et l'on crut qu'il priait.
« Écrivez donc, l'ami, » dit-il au secrétaire. « Vous entendez bien que je dicte. Je, Charles... »
Il s'arrêta parce que c'était une sensation bien douloureuse, bien effrayante que d'écouter sa propre voix prononcer son propre nom pour la dernière fois. Le nom, n'est-ce pas le symbole même de l'existence de l'être et de son unité ? Valois eut envie vraiment d'en finir là, parce que rien d'autre ne l'intéressait plus. Mais il y avait tous ses regards. Une ultime fois, il fallait agir, et pour les autres, dont il se sentait déjà si profondément séparé.
« Je, Charles, fils du roi de France, comte de Valois, d'Alençon, de Chartres et d'Anjou, fais savoir à tous que je, saint d'esprit bien que malade de corps... »
Si l'élocution était partiellement gênée, si la langue accrochait sur certains mots, parfois les plus simples, la mécanique cérébrale continuait en apparence de fonctionner normalement. Mais cette dictée s'effectuait dans une sorte de dédoublement, et comme s'il avait été son propre auditeur. Il lui semblait se tenir au milieu d'un fleuve embrumé. Sa voix s'adressait à la rive dont il se détachait. Il tremblait de ce qui adviendrait lorsqu'il toucherait l'autre berge.
« Et demandant à Dieu merci, redoutant qu'il ne m'étonnât d'épouvante quant au jugement de l'âme, j'ordonne ici de moi et de mes biens et fais mon testament et ma dernière volonté de la manière ci après écrite. Premièrement, je remets mon âme à notre Seigneur Jésus-Christ et à sa miséricordieuse mère et à tous les saints. »
Sur un signe de la comtesse de Hainaut, un serviteur essuya la salive qui coulait par un coin de la bouche. Toutes les conversations particulières s'étaient arrêtées et l'on évitait même les froissements d'étoffe. Les assistants paraissaient stupéfaits quand ce corps immobilisé, réduit, déformé par la maladie, la pensée eût gardé tant de précision et même de recherche dans la formulation. Gaucher de Châtillon murmura à l'adresse de ses voisins.
« Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va passer. »
Jean de Torpeau, l'un des médecins, eut une moue négative. Pour lui, Monseigneur Charles n'atteindrait pas la nouvelle aurore. Mais Gaucher reprit.
« J'en ai vu. Je vous dis qu'il reste de la vie dans ce corps-là. »
La comtesse de Hainaut, le doigt sur la bouche, pria le connétable de se taire. Gaucher était sourd et n'appréciait pas la force de son chuchotement. Valois poursuivait sa dictée.
« Je veux la sépulture de mon corps en l'église des frères mineurs de Paris, entre les sépultures de mes deux premières épouses compagnes. »
Son regard chercha le visage de sa troisième épouse, la vivante, bientôt comtesse Douairière. Trois femmes et toute une vie était passée. C'était Catherine, la seconde, qu'il avait le plus aimée, à cause peut-être de sa couronne féerique de Constantinople. Une beauté, Catherine de Courtenay, bien digne de porter un titre de légende. Valois s'étonnait quand sa malheureuse chair, à moitié inerte et au bord de s'anéantir, demeura vaguement, diffusément, comme un frémissement des anciens désirs qui transmettent la vie. Il reposerait donc à côté de Catherine, à côté de l'impératrice titulaire de Byzance. Et de l'autre côté, il aurait sa première épouse, Marguerite, la fille du roi de Naples, toutes deux en poudre depuis si longtemps. Quelle étrangeté que le souvenir d'un désir pût persister quand le corps qui en était l'objet n'existe plus. Est-ce que la résurrection... Mais il y avait la troisième épouse, celle qui le regardait et qui avait été bonne compagne aussi. Il fallait lui laisser quelques fragments charnels.
Item, je veux mon cœur en la dite ville et au lieu où ma compagne Mao de Saint-Paul élira sa sépulture, et mes entrailles en l'abbaye de Chaly, le droit au partage de ma chair m'ayant été octroyé par bulle de notre très Saint-Père le Pape.
Il hésita, cherchant la date qui lui échappait, et ajouta
« Précédemment ».
Quelle fierté n'avait-il pas retiré de cette autorisation donnée seulement au roi de pouvoir distribuer son cadavre comme on divise les saints en reliques. Il lui serait fait traitement de roi jusque dans le tombeau. Mais maintenant, il pensait à la grande résurrection, seul espoir laissé à ceux parvenus sur l'extrême bord de l'ultime marche. Si les enseignements de la religion étaient vrais, comment se passerait pour lui cette résurrection ? Les entrailles à Chaly, le cœur au lieu que Mao de Saint-Paul choisirait, et le corps en l'église de Paris. Était-ce avec une poitrine vide, un ventre bourré de paille et recousu de chanvre, qu'il se dresserait entre Catherine et Marguerite ? Oh, difficile espérance, puisqu'inconcevable à l'esprit humain. Y aurait-il cette presse de corps et de regard, comme celle qui se tenait en ce moment autour de son lit ? Quelle grande confusion attendre si se dressaient ensemble tous les ancêtres et tous les descendants et les meurtriers face à leurs victimes et toutes les maîtresses et toutes les trahisons. Est-ce que Marigny surgirait devant lui ?
Item, je laisse à l'abbaye de Chaly 60 livres tournois pour faire mon anniversaire.
Le linge à nouveau essuya son menton. Près d'un quart d'heure durant, il cita toutes les églises, abbayes, fondations pieuses situées dans ses fiefs et auxquelles il laissait à l'une 100 livres, à l'autre 50, ici 120, ici une fleur de lys pour embellir une châsse. Énumération monotone, sauf pour le mourant, à qui chaque nom prononcé représentait un clocher, une ville, un bourg dont il était pour quelques heures ou jours encore le seigneur. Couleur d'un rempart, silhouette d'une flèche ajourée, sonorité des pavés ronds d'une rue montante, parfum d'une aire de marché, toute chose une dernière fois par la parole possédée. Les pensées des assistants s'échappaient comme à la messe quand le service est trop long. Seule Jeanne la boiteuse, qui souffrait de rester si longtemps sur ses jambes inégales, écoutait avec attention. Elle additionnait, elle calculait. À chaque chiffre, elle levait vers son mari, Philippe de Valois, un visage nullement disgracieux, mais qu'enlaidissaient les mauvaises pensées de l'avarice. Tous ses legs amputaient l'héritage.